à Washington.
Jean Rougebillon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 1er juin 2023. Au Sénégal, des violences sont éclatées dans différents quartiers de Dakar et dans d'autres villes après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.
Un bus et l'amphithéâtre de l'école de journalisme ont été brûlés. Les affrontements se poursuivent actuellement entre les étudiants et les policiers sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar.
Nous aurons en ligne dans un instant notre correspondant de la capitale sénégalaise. Dans l'est de la RDC, le mandat de la force régionale chargée de lutter contre les violences est prolongé jusqu'au mois de septembre. Au Soudan, les exactions se multiplient et Washington annonce des sanctions. Ici aux États-Unis, l'accord sur la dette approuvé par la Chambre des représentants est attendu au Sénat. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. De violentes manifestations ont éclaté aujourd'hui à Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce qui remet en cause sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. On fait le point dans la capitale sénégalaise avec notre correspondant Seydina Bagay.
L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé les hostilités avec des affrontements entre les étudiants affiliés au parti PASTEF de Ousmane Sonko et les étudiants affiliés à la mouvance présidentielle. De violents heurts qui ont occasionné plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. 2 morts ont d'ailleurs été annoncés au sein du campus social de l'université avant que l'information ne soit démentie par la direction générale de cette institution. Plusieurs facultés ont également subi la furie des étudiants, parmi elles la faculté de droit qui a été partiellement incendiée. Le CESTI, où sont formés la majorité des journalistes sénégalais, a également été attaqué. Un bus et l'amphithéâtre de l'école de journalisme ont été brûlés. Les affrontements se poursuivent actuellement entre les étudiants et les policiers sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Des affrontements qui sont aussi notés à la cité Kër Gorgui où le domicile de l'opposant Ousmane Sonko est toujours encerclé par les forces de l'ordre. En outre, les principales artères de la capitale sont bloquées par des manifestants. Des stations d'essence et des édifices publics sont attaqués ou réduits en cendres. Une situation qui se propage au reste du pays, notamment dans la ville de Ziguinchor, dans le sud, d'où est originaire Ousmane Sonko, et où il est le maire de la ville. La situation devient de plus en plus tendue et inquiétante car les foyers de manifestation sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, la majorité des commerces et la plupart des écoles sont fermées depuis le matin. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
La décision de la justice sénégalaise maintient la menace sur l'éligibilité de M. Sonko et sur sa faculté à concourir à la présidentielle de l'année prochaine. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle arrestation. Je vous propose à présent la réaction d'Aminata Touré, dite Mimi, ancienne première ministre du président Macky Sall, qui a rejoint l'opposition.
Aujourd'hui, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné, comme vous avez suivi, à 2 ans de prison ferme, ce que je trouve totalement injuste. Si les 2 chefs d'accusation ont été écartés par le juge, on s'attendait évidemment à un acquittement pur et simple. Mais tout cela s'inscrit dans une stratégie plus large. Évidemment, ça c'était un aspect très très important. Le président Macky Sall envisage un 3e mandat, illégal bien sûr, puisque la constitution sénégalaise est très très claire. En son article 27, elle stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall, lors du référendum de 2016, l'a clairement expliqué aux populations, aux journalistes, en langue nationale, en langue officielle, à tout le monde. Donc c'est très très clair. Mais entre-temps, il a changé d'avis et tous ceux qui se mettent en travers de sa voie sont éliminés. C'est dans ce sens-là que moi, je perçois, disons, ce verdict. Moi-même qui ai dirigé sa liste, la liste de Benno Bokoyakar du président Macky Sall, il y a moins d'un mois, parce que j'étais contre justement ce 3e mandat, j'ai été illégalement expulsé de l'Assemblée nationale. Il en est de même pour tous ces jeunes manifestants. Ils sont à peu près 500 aujourd'hui dans les prisons. Les journalistes eux-mêmes n'échappent pas justement à cette régression. Nous n'avons jamais eu autant de journalistes emprisonnés pour des faits d'opinion que ces derniers mois.
Aminata Touré, Edith Mimi, ancienne première ministre du Sénégal. On continue ce journal avec le reste de l'actualité. Sur le continent, les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont annoncé avoir prolongé jusqu'au mois de septembre le mandat de leurs forces militaires chargées de réduire les violences dans l'est de la République démocratique du Congo et critiquée par Kinshasa. Les précisions de John Lindon.
Cette force composée de soldats kényans, ougandais, burundais et sud-soudanais a été déployée graduellement depuis novembre dernier dans cette région en proie à de nombreux groupes armés. Son avenir a été en jeu depuis que le président Félix Tshisekedi a déclaré début mai que cette force est-africaine pourrait être invitée à quitter le pays fin juin, à peine 3 mois après son déploiement complet. La mission de la force régionale n'est pas remplie, avait-il estimé, en dénonçant sa complaisance avec les rebelles du M23. Mais mercredi, lors d'un sommet organisé au Burundi, les 7 pays d'Afrique de l'Est ont convenu de maintenir les troupes au moins jusqu'au 8 septembre pour consolider les progrès faits sur le terrain, selon un communiqué de l'organisation.
Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions économiques et des restrictions de visa contre les acteurs qui entretiennent la violence au Soudan. Une vingtaine de civils ont été tués dans des bombardements sur un marché de Khartoum. Dernier épisode, meurtrier d'une guerre qui ne connaît pas de répit après le retrait de l'armée des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Alexandrine Ollognon.
Des tirs d'artillerie lourde ont été signalés dans la banlieue nord de Khartoum. Les scènes de pillage se multiplient. Le comité de résistance qui organise l'entraide entre les habitants du quartier dénonce une situation catastrophique et lance un appel urgent pour des médecins et des dons de sang. L'armée a bombardé des bases des FSR à Khartoum après son retrait des négociations sur un cessez-le-feu à Jeddah. Depuis le début des combats le 15 avril, les deux généraux ont accepté une dizaine de trêves avant de les violer aussitôt. Les États-Unis, qui supervisaient depuis près d'un mois avec l'Arabie saoudite les discussions entre les deux camps, ont dénoncé jeudi de graves violations et annoncé des sanctions économiques et des restrictions de visa contre les acteurs. Les combats ont déjà fait plus de 1800 morts selon l'ONG ACLED et plus d'1 million de déplacés. Le nombre de Soudanais ayant fui au Tchad voisin a dépassé les 100 000, selon le HCR, qui réclame un soutien financier d'urgence.
Le Zimbabwe adopte une loi patriotique jugée liberticide par l'opposition. La loi adoptée criminalise le fait de porter volontairement atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national, vivement dénoncé dans la nuit de mercredi à jeudi par l'opposition comme un bâillon supplémentaire imposé par un pouvoir autoritaire. Le Parlement a adopté ce projet de loi dit patriotique à moins de 3 mois de l'élection présidentielle et des législatives, dont le pouvoir a annoncé le même jour qu'elle se tiendrait le 23 août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants ont adopté à une très large majorité le texte visant à relever le plafond de la dette. Cela éloigne ainsi un peu plus le spectre d'un défaut des États-Unis sur leur dette. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le projet de loi suspend le plafond de la dette jusqu'en 2025, soit après les élections présidentielles de novembre 2024. Il prévoit aussi une baisse de 10 milliards de dollars des fonds alloués aux services fiscaux pour se moderniser et renforcer les contrôles. Le compromis augmente de 49 à 54 ans l'âge auquel les adultes sans enfants doivent travailler pour recevoir une assistance alimentaire. Mais il élimine cette obligation de travailler pour les anciens combattants et les sans-abri. Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que l'accord prévoit le recouvrement de milliards de dollars de fonds COVID non dépensés pendant la pandémie. Dans un communiqué, le président Joe Biden a qualifié le vote de pas en avant pour prévenir un défaut de paiement. Le texte doit permettre d'éviter que les caisses du pays se retrouvent à sec lundi prochain. Il doit maintenant être adopté par le Sénat. Le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, a assuré qu'il le soumettrait aussi vite que possible pour éviter le défaut de paiement.
Près de 50 dirigeants européens se sont réunis en sommet avec le président Volodymyr Zelensky ce jeudi en Moldavie, défiant le président russe Vladimir Poutine dans ce petit pays voisin de l'Ukraine qui vit aussi dans la crainte de la Russie. Et puis le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé aujourd'hui à Oslo un déplacement à Ankara dans un proche avenir à l'invitation du président turc pour tenter de lever les derniers obstacles à l'adhésion de la Suède. La Turquie est avec la Hongrie l'un des deux seuls pays des 31 pays de l'OTAN à n'avoir pas encore ratifié une adhésion suédoise. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé un programme de perfectionnement professionnel pour insérer les jeunes et les femmes dans les secteurs de la mécanique industrielle et des technologies de l'information et de la communication. Les formations formeront des mécaniciens, électriciens, techniciens de maintenance, entre autres spécialisations industrielles. Seront également formés des développeurs, analystes et spécialistes de la sécurité informatique. Le programme devrait permettre la création de plus de 600 emplois qualifiés. L'Union européenne va bientôt engager des négociations avec la République démocratique du Congo sur les métaux, notamment le cobalt et le cuivre utilisés dans la fabrication des véhicules électriques. L'Union européenne compte investir dans l'exploitation et la transformation des minéraux congolais et participer à la création d'une industrie régionale de batteries électriques. Les discussions pourraient s'étendre au Rwanda, à l'Ouganda, à la Zambie et à la Tanzanie. Le Maroc a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois Gotion High-Tech sur un montant de 6,3 milliards de dollars destiné à la construction d'une usine de batterie pour véhicules électriques. Une prochaine convention d'investissement permettra le lancement d'une gigafactory et même de conforter la position d'acteur prépondérant de l'industrie automobile du royaume, a déclaré hier Mohcine Jazouli, ministre délégué marocain chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Nigeria a qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Oui, les Flying Eagles du Nigeria ont battu et éliminé l'Argentine de sa propre Coupe du Monde grâce à leur victoire 2-0 en huitième de finale après un nul de 0-0 à la mi-temps. C'est en seconde période que la rencontre s'est décantée. Ibrahim Beji Mohamed a ouvert le score pour le Nigeria à la 61e minute. Rilwanou Aliru a corsé l'addition dans le temps additionnel. En quart de finale, le Nigeria affrontera le gagnant du match entre l'Équateur et la Corée du Sud. Bien avant, la Gambie fait face à l'Uruguay dans l'autre huitième de finale.
Christophe Galtier confirme le dernier match de Messi au Parc avec le Paris Saint-Germain ce samedi.
C'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons, soutient l'entraîneur du Paris Saint-Germain au sujet de la Pulga, qui a déjà plusieurs fois essuyé des sifflets d'une partie des supporters. Christophe Galtier confirme ainsi que la star argentine est sur le départ, en fait contrat au 30 juin avec le PSG. Lionel Messi ne devrait pas prolonger son bail avec le club de la capitale après deux saisons. Pour sa future destination, Messi est tiraillé entre le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et l'Inter Milan. Une source en Arabie Saoudite proche des négociations a affirmé à l'AFP début mai que le Royaume a proposé un pont d'or exceptionnel énorme à Messi et que son recrutement par le fonds souverain saoudien pour un club encore non déterminé est une affaire conclue. Le père de l'attaquant, José Messi, avait toutefois démenti dans la foulée sur Instagram.
Le défenseur de la RDC, Chancel Mbemba, revient sur son primark Vivienne Foué.
Depuis son arrivée à Marseille cette saison, le défenseur congolais est devenu l'une des pièces maîtresses de la défense de l'OM. Marius Mounga l'a joint au téléphone.
Je suis honoré, ça fait plaisir et je dis merci à toute l'organisation et merci à tout le monde. On a créé à moi pour donner la voix pour je prends ce trophée. J'attendais pas à ça, mais je savais, j'ai fait des grands matchs et j'ai marqué beaucoup de buts dans ce championnat. Je savais encore je joue à OM, c'est grand club ici à France. Mon dernier but j'ai marqué le week-end, ça a beaucoup donné, ça a ouvert beaucoup de portes pour prendre ce trophée.
Vous êtes le premier défenseur à recevoir ce prix. Quel est votre secret, Chancel Mbemba, parce que vous êtes également le défenseur qui marque le plus de buts dans le championnat européen?
Le secret, c'est d'abord du travail, et quand tu es sérieux, et c'est grâce à tous mes coéquipiers, parce que quand je joue sur le terrain, je ne joue pas seul. C'est l'équipe, on est 11. Mais je prends l'opportunité quand je monte, je profite de prendre l'opportunité de marquer.
Chancel Mbemba, vainqueur du prix Marc Vivien Foué, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, un tribunal criminel de Dakar a condamné aujourd'hui l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La justice l'a acquitté des accusations de viol et menace de mort dans un climat de vive tension. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Un complot d'État. C'est ainsi que les avocats de Ousmane Sonko qualifient ce procès qui, d'après eux, n'a qu'une finalité, empêcher l'opposant d'être candidat à la présidentielle de 2024. Des faits qui ont conduit le Sénégal dans une situation inédite, d'après Maître Siré Kélédorli, avocat de Ousmane Sonko.
C'est clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi rentre et reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a plus de 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on. Sans compter qu'il peut y avoir des morts qui ne soient pas encore listées. Et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations.
Du côté des avocats de la victime, la décision de la chambre criminelle n'a pas répondu à toutes les attentes, comme le confie Maître Elhadj Diouf, avocat d'Adjissar.
C'est une satisfaction pour les avocats de Adjissar, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé.
Et le viol n'a pas été retenu.
Le viol n'a pas été retenu. La corruption de la jeunesse a été retenue. C'est tout comme. Parce que quand on abuse de la jeunesse d'une fille pour coucher avec elle, c'est presque un viol.
Le verdict n'a pas sonné la fin de la bataille des avocats, car chacun continue à réclamer la vérité des faits. Dans certaines rues de Dakar et dans certaines localités du pays, une véritable guérilla urbaine s'est installée depuis l'annonce du verdict. Les militants de l'opposant Ousmane Sonko estimant que même si leur leader a été blanchi pour viol et menace de mort, sa condamnation pour 2 ans ferme n'est qu'un subterfuge pour l'éliminer politiquement. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République centrafricaine, la convocation d'un référendum constitutionnel le 30 juillet prochain divise. Alors que le parti au pouvoir, le MCU, et ses alliés se réjouissent de cette annonce, l'opposition politique promet de faire barrage à ce projet. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Alors que tous les yeux sont rivés sur l'organisation des élections locales prévues le 16 juillet prochain, le président Faustin Archange Touadéra a fait une sortie surprise ce 30 mai. Le chef de l'État a annoncé, dans une adresse à la nation, la tenue d'un référendum constitutionnel le 30 juillet.
J'ai donc décidé, après consultation du président de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 90 de la Constitution du 30 mars 2016 et l'article 2 de la loi du 13 janvier 2023 fixant les procédures du référendum en République centrafricaine, de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle Constitution de la République centrafricaine.
Quelques heures seulement après cette annonce, un décret convoque le corps électoral. Tout le pays se réveille, des réactions affluent de partout. Le MCU, parti du président Touadéra et ses alliés, se réjouissent de cette annonce et expriment leur soutien à travers une grande marche ce mercredi à Bangui. Arthur Bertrand Piri, ministre de l'énergie et troisième secrétaire général du MCU.
Aujourd'hui, la population est venue massivement pour remercier le président d'avoir répondu à sa préoccupation. En tout cas, les mots me manquent pour exprimer exactement, mais je ne peux que féliciter, rendre hommage à ce peuple qui s'est levé comme un seul homme pour demander la réécriture d'une nouvelle constitution et qui est venu aujourd'hui massivement pour remercier son président.
Si les partisans du pouvoir se réjouissent de la convocation de ce référendum, dans le rang de l'opposition, c'est l'exaspération. Le Bloc républicain pour la défense de la constitution BRDC promet de faire échec à ce projet. Nicolas Tsongai, ancien Premier ministre et membre du BRDC.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est la survie d'un peuple. C'est à ce peuple de prendre ses responsabilités. Nous, en tant que leaders, nous allons indiquer la voie à suivre. C'est le peuple qui doit dire que Touadéra, après avoir liquidé les acquis démocratiques, est en train de préparer aujourd'hui un coup d'État constitutionnel. Est-ce que le peuple centrafricain accepte un coup d'État constitutionnel? Oui ou non? Nous allons demander à ce peuple-là de prendre ses responsabilités. Nous allons organiser les manifestations qui sont prévues par la loi. Nous restons dans le cadre du respect de la légalité pour s'opposer à ce pseudo-référendum.
La société civile, qui observe de près la situation, s'étonne de ce virage inattendu alors que tout le monde se préparait à aller aux élections locales dont les dernières ont eu lieu il y a 35 ans. Frédéric Nakombo, membre du réseau Arc-en-Ciel, une plateforme de la société civile travaillant sur les élections.
Notre position, c'est quoi? C'est que pour nous, nous ne sommes pas contre la tenue du référendum constitutionnel. Nous voudrions à ce qu'on accorde une priorité ou une importance capitale aux élections locales. Le programme des élections locales primait sur le référendum. Et aujourd'hui, on est en train de constater que c'est le contraire.
Le top est donné par le président Faustin Archange Touadéra, mais la majorité des Centrafricains s'interrogent encore sur la source de financement de ce scrutin au moment où le gouvernement fait face à une tension de trésorerie. Frimansi Pila Bongui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Bénin, même si la fracture numérique entre hommes et femmes reste un défi à relever, certaines Béninoises avec beaucoup d'audace s'incrustent de plus en plus dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et arrivent même à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas d'Esther Idrissou, initiatrice de la plateforme AgriYouth. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, l'a rencontrée. Voici son portrait.
Avec une licence en journalisme, Esther Idrissou est blogueuse. En 2014, elle a créé AgriYouth, une plateforme dédiée à la promotion de l'agriculture. Mais comment est née cette passion?
Après ma formation en journalisme, j'ai compris qu'il fallait me spécialiser. Donc, j'ai créé le site AgriYouth. Ensuite, d'année en année, d'expérience en expérience, aujourd'hui, AgriYouth est une plateforme média qui publie des articles, des podcasts et contribue à la formation des jeunes dans l'agroalimentaire, l'entrepreneuriat agricole, l'entrepreneuriat vert. Donc nous faisons partie de plusieurs réseaux dont le réseau Agro Bootcamp où nous formons des jeunes dans l'agroécologie. Tout ça contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable.
AgriYouth est un label qui en 9 ans a réussi à convaincre la jeunesse béninoise.
La vision de AgriYouth, c'est d'augmenter l'attractivité de l'entreprise agricole, surtout portée par la jeunesse. L'agriculture est un domaine qui n'attire pas forcément la jeune génération. Nous faisons en sorte d'inspirer et de former justement une nouvelle génération de jeunes.
Âgée de 30 ans, elle confie comment elle a pu s'incruster dans le secteur dominé par les hommes.
Il a fallu vraiment être à l'affût de l'information. D'ailleurs, le digital est comme ça. Il faut vraiment pousser, aller vers l'information, ne pas rester dans son coin. Dès qu'il y a une formation, ne pas hésiter. Ne pas également hésiter à suivre des formations en ligne, à s'auto-former. Moi, je suis assez autodidacte et c'est comme ça que j'ai pu vraiment acquérir des compétences qui m'ont permis en fait de me positionner également dans ce domaine où généralement les hommes sont plus prépondérants.
Pour en arriver à ce point de renommée, elle a dû certainement affronter d'énormes difficultés.
Compliqué de mieux se positionner dans un environnement où on ne vous voit pas forcément. Mais de plus en plus, il y a des actions et des projets qui viennent donner de la visibilité à la femme. Et il y a notamment la Women in Tech aujourd'hui, où je suis secrétaire générale, qui fait la promotion et qui conduit à la réduction de la fracture du genre au niveau du numérique. Donc la Women in Tech favorise justement ce positionnement-là des femmes. Donc plus en plus, ces difficultés sont en train d'être levées.
Même si le gouvernement investit pour favoriser l'insertion des femmes dans le secteur, la disponibilité de l'électricité, la qualité et le coût de la connexion Internet, ainsi que la méconnaissance des opportunités d'emploi qu'offre le numérique, sont autant de facteurs qui limitent l'accès des femmes au monde des TIC, plus particulièrement dans le monde rural. De Cotonou, c'est notre attendu pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le gouvernement kenyan affirme avoir conclu ou prévoit de conclure des accords avec le Canada, l'Allemagne, les États-Unis et certains pays du Golfe Persique, avec pour objectif de faciliter l'emploi des Kenyans à l'étranger. Cependant, les défenseurs des droits des travailleurs estiment que de tels accords, en particulier avec les pays du Golfe, laissent nombre de travailleurs vulnérables à l'exploitation et aux abus. De Nairobi, le reportage de Mohamed Youssouf, récit Jacques Aristide.
Quelques 750 000 Kenyans qui ne parviennent pas à trouver du travail dans leur pays veulent tenter leur chance à l'étranger. En vue de réduire le chômage, le gouvernement prévoit de paraffer au moins 10 accords bilatéraux portant sur l'emploi, indique Jeffrey Kaituko du département kenyan du travail.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Les gens se déplacent constamment. C'est pourquoi le gouvernement du Kenya donne la priorité à la migration de la main-d'œuvre, à la mobilité du travail.
Plus de 170 000 Kenyans sont partis travailler dans la région du Golfe. Près de la moitié d'entre eux sont des employés de maison. Cécilia Wanjiku met le cap sur l'Arabie Saoudite, où elle va être employée comme femme de ménage.
And since I cannot acquire a good job in Kenya,
comme je ne peux pas trouver un bon emploi ici au Kenya, j'ai décidé d'aller en Arabie Saoudite, loin de mon pays, pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille.
Le Kenya a empoché environ 4 milliards de dollars à partir des transferts d'argent effectués par ses citoyens à l'étranger en 2022, un chiffre que le gouvernement veut tripler grâce à ses nouveaux accords. Des défenseurs des droits des travailleurs affirment toutefois que le désespoir de partir trouver du travail dans d'autres pays ouvre la voie aux abus de la part des employeurs à l'étranger. En 2021, 41 Kenyans sont morts sur leur lieu de travail en Arabie Saoudite. Les agences de recrutement au Kenya sont accusées de ne pas faire assez pour protéger les travailleurs. Peace Mutiu de la Sanda Global Agencies à Nairobi indique que bon nombre de jeunes femmes qu'elle a envoyées à l'étranger ont eu des problèmes avec leurs employeurs.
Au cours des deux dernières années, j'ai défendu 26 jeunes filles. 10 se sont revenues dans le pays, 16 ont changé d'employeur et cela m'a affecté.
Peace Mutiu ajoute que les agents saoudiens ont bloqué son accès au système qui répertorie les opportunités d'emploi pour les Kenyans. Faith Shimila est rentrée au Kenya en 2021 après avoir travaillé pendant un an et demi en Arabie Saoudite où elle a été victime de graves abus, dit-elle.
I used to work 18 to 19 hours, no medication, no resting hours.
Je travaillais jusqu'à 19 heures par jour sans médicaments, sans heures de repos, sans congé, sans pause. J'étais nourrie de restes et je dormais dans un endroit misérable. J'ai été violée pendant tout ce temps. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai été violée en Arabie Saoudite. J'ai été violée à de nombreuses reprises par cet employeur.
L'avocat John Mwariri, qui représente Shimila et 12 autres personnes, accuse le gouvernement kényan d'avoir failli à les protéger.
Même en cas de mauvais traitement, la plupart de ces victimes appellent au gouvernement à l'aide, mais le gouvernement n'apporte aucune assistance.
D'après le gouvernement kényan, les accords bilatéraux avec les pays du Golfe offriront des protections aux travailleurs contre toute forme d'abus, mais les critiques demeurent sceptiques.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.